De l'intégration sociale des Burakumins, des Intouchables et des Roms. Il ne s'agit pas d'idéaliser ici cette politique d'intégration sociale et éducative. Le Japon est resté une société hiérarchisée et inégalitaire. Des groupes comme les Burakumins ont continué de lutter contre les discriminations réelles, à défaut d'être légales, dont ils faisaient encore l'objet au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et les traces de ce lourd héritage sont toujours visibles au début du XXIe siècle, même si les traces sont sans commune mesure avec celles laissées par les basses castes en Inde. Le projet japonais d'intégration sociale s'est en outre accompagné d'une montée en puissance du nationalisme et du militarisme qui conduisit à Pearl Harbor, puis à Hiroshima. Pour une partie de l'opinion nationaliste japonaise, telle qu'elle s'exprime par exemple au musée militaire du sanctuaire Yasukuni à Tokyo, le long conflit qui se déroule de 1854 à 1945 doit être considéré comme la Grande Guerre d'Asie orientale, une guerre au cours de laquelle le Japon, malgré quelques cuisants revers, serait parvenu à ouvrir la voie à la décolonisation de l'Asie et du monde. Cette vision met l'accent sur le soutien apporté par les Japonais aux indépendantistes indiens, indochinois et indonésiens pendant la Seconde Guerre mondiale, et plus généralement sur le fait que les Européens et les États-Unis n'avaient au fond jamais accepté l'idée d'une puissance asiatique indépendante et n'auraient jamais consenti à la fin de leur domination coloniale autrement que par la force des armes. Malgré ces brillantes victoires militaires face à la Chine en 1895, la Russie en 1905 et la Corée en 1910, preuve indiscutable du succès des réformes de l'ère Meiji, le Japon eut l'impression qu'il ne gagnerait jamais complètement le respect des Occidentaux au sein du club des puissances industrielles et coloniales. Aux yeux des nationalistes japonais, l'humiliation suprême fut le refus occidental de l'inscription du principe de l'égalité raciale dans le traité de Versailles en 1919, en dépit de leurs demandes répétées, et surtout l'imposition lors du traité de Washington de 1921 de la règle selon laquelle les tonnages militaires des États-Unis, du Royaume-Uni et du Japon devraient rester bloqués sur une proportion 5-5-3. Cette règle condamnait le Japon à une infériorité militaire éternelle dans les mers asiatiques, quels que soient ses progrès industriels et démographiques. L'Empire nippon la dénonça en 1934, ouvrant la voie à la guerre. En 1940-1941, deux visions de plus en plus antagoniques se faisaient face. Le Japon exigeait le retrait occidental complet de l'Asie orientale, alors que les États-Unis demandaient le retrait généralisé des puissances coloniales présentes en Chine, donc en particulier le retrait japonais, et renvoyaient à plus tard la question plus générale de la décolonisation. Lorsque Roosevelt décréta l'embargo pétrolier contre le Japon, clouant ainsi sa marine et son armée au sol à brève échéance, les généraux japonais considérèrent qu'ils n'avaient d'autre choix que d'attaquer Pearl Harbor. Cette vision nationaliste japonaise est intéressante et par certains côtés compréhensible, mais elle oublie toutefois un point essentiel: les populations de Corée, de Chine et des autres pays d'Asie occupés par les Japonais n'ont pas le souvenir d'avoir eu affaire à des libérateurs, mais bien plutôt à une puissance coloniale faisant preuve de la même brutalité dominatrice que les Européens, voire parfois pire, encore que ceci mérite d'être apprécié au cas par cas, d'autant plus que la barre est parfois élevée. L'idéologie colonialiste visant à libérer et civiliser les peuples malgré eux mène généralement à des désastres, quelle que soit la couleur de peau du colonisateur. Si on laisse de côté ces conflits toujours vifs entre les différentes puissances et idéologies coloniales et les mémoires des populations colonisées, il reste que la politique d'intégration sociale et éducative et de développement économique menée par le Japon de l'ère Meiji, 1868-1912, ainsi que par le Japon démilitarisé depuis 1945, constitue une expérience de transformation sociopolitique particulièrement rapide d'un régime inégalitaire ancien. Le succès de la transition propriétariste et industrielle japonaise démontre à quel point les mécanismes en jeu ne dépendent pas de la prétendue unicité de la culture chrétienne ou de l'essence civilisationnelle européenne. Ensuite, et surtout, l'expérience du Japon montre que des politiques volontaristes, notamment en matière d'infrastructures publiques et d'investissements éducatifs, peuvent venir à bout en quelques décennies d'inégalités statutaires anciennes particulièrement fortes et qui, dans d'autres contextes, sont parfois perçues comme figées et inaltérables. Si les discriminations passées envers les classes parias ont laissé des traces, il reste que le Japon est devenu, au cours du XXe siècle, un pays dont le niveau de vie moyen est l'un des plus élevés de la planète et où les inégalités de revenus se situent à un niveau intermédiaire entre l'Europe et les États-Unis. La politique menée par l'État japonais de 1870 à 1940 pour assurer le développement socio-économique et éducatif du pays et une certaine unification de la société n'était pas parfaite. Mais elle était par exemple autrement plus unificatrice que celle menée en Inde par l'État colonial britannique, qui se préoccupait peu de réduire les inégalités sociales ou d'investir dans l'alphabétisation et la formation des basses castes. Nous verrons dans la prochaine partie que la réduction des inégalités sociales japonaises fut également renforcée par une ambitieuse réforme agraire mise en place en 1945-1950, ainsi que par le développement d'une fiscalité fortement progressive sur les hauts revenus et les hautes successions, processus politico-fiscal qui avait débuté sous l'ère Meiji et dans l'entre-deux-guerres, mais qui fut renforcé après la défaite. Dans le contexte européen, les Roms constituent sans doute l'exemple d'un groupe social discriminé comparable aux Burakumins japonais et aux basses castes indiennes. Rappelons que le Conseil de l'Europe désigne sous le terme de Roms un ensemble de populations nomades ou sédentarisées, également connues sous diverses autres appellations, y compris tziganes, gitans, manouches, gens du voyage. La plupart présentes en Europe depuis au moins un millénaire et issues de diverses provenances indiennes et moyenne-orientales plus ou moins avérées, compte tenu des multiples métissages en jeu. Selon cette définition, les Roms représentaient entre 10 et 12 millions de personnes dans les années 2010, soit environ 2% du total de la population européenne. C'est plus limité que les Burakumins japonais, entre 2 et 5% de la population, ou les basses castes indiennes, entre 10 et 20%, mais néanmoins significatif. On trouve des Roms dans presque tous les pays européens, particulièrement en Hongrie et en Roumanie, où l'abolition de l'esclavage servage des Roms a eu lieu en 1856, avant que les populations nouvellement émancipées fuient leurs anciens maîtres et se répartissent dans d'autres parties du continent. Par comparaison aux Burakumins et aux anciens intouchables et aborigènes, la très lente intégration des Roms s'explique pour une large part par l'absence de politiques adéquates, et en particulier par le fait que les différents pays européens se renvoient la responsabilité de s'occuper de ces populations, qui continuent de faire l'objet de préjugés négatifs concernant l'étrangeté de leurs mœurs et leur refus supposé de s'intégrer, alors même qu'elles font face à des discriminations considérables et des politiques d'intégration relativement limitées. Le cas des Roms est d'autant plus intéressant qu'il peut permettre aux opinions européennes, souvent promptes à donner des leçons à la Terre entière, de mieux comprendre les difficultés auxquelles des pays comme le Japon ou l'Inde ont eu à faire face avec les Burakumins ou les basses castes, catégories qui ont fait l'objet du même type de préjugés au cours de l'histoire et que ces pays ont néanmoins réussi à dépasser avec diverses politiques d'intégration sociale et éducative menées dans la durée. La société trifonctionnelle et la construction de l'État chinois. Venons-en maintenant à la façon dont le colonialisme a affecté la transformation du régime inégalitaire chinois. Tout au long de son histoire, jusqu'à la révolution de 1911, instituant la République, la Chine était organisée suivant une configuration idéologique que l'on peut qualifier de trifonctionnelle, de même que l'Europe ou l'Inde jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle. Une première différence importante tient toutefois à la nature du confucianisme, qui s'apparente davantage à une sagesse civique qu'à une religion au sens des monothéismes chrétiens, juifs ou musulman ou de l'hindouisme. Érudit et pédagogue hors pair, ayant vécu au VIe siècle et au début du Ve siècle avant l'ère commune, AEC, issu d'une famille princière éprouvée par les conflits incessants entre royaumes chinois, Kong Fuzi, latinisé en Confucius, aurait, selon la tradition, parcouru la Chine pour délivrer ses enseignements et démontrer que la paix publique et l'harmonie sociale devaient se fonder sur l'éducation, la pondération et la recherche de solutions qui se voulaient rationnelles et pragmatiques, mais qui en pratique étaient le plus souvent assez conservatrices, aussi bien du point de vue des mœurs et du respect dû aux anciens que de la propriété et du respect dû aux propriétaires. Comme toujours dans les sociétés trifonctionnelles, il s'agissait de mettre la pondération des savants et des lettrés au cœur de l'ordre politique et d'équilibrer ainsi les débordements des guerriers. Le confucianisme, routier en chinois, enseignement des lettrés, est ainsi devenu doctrine d'État au IIe siècle AEC et l'est resté jusqu'en 1911, au fil de ses transformations et de ses divers échanges et symbioses avec le bouddhisme et le taoïsme. Depuis les temps les plus reculés, les lettrés confucéens étaient décrits comme des savants et des administrateurs mettant leurs immenses savoirs et compétences, leurs connaissances de l'écriture et de l'histoire chinoise, et aussi leur morale familiale et civique très stricte au service de la communauté, de l'ordre public et de l'État, et non pas au service d'une organisation religieuse distincte de l'État. Cette différence essentielle entre les logiques trifonctionnelles confucianistes et chrétiennes constitue d'ailleurs l'une des explications les plus naturelles pour l'unité étatique chinoise et la fragmentation politique européenne, quelles que soient par ailleurs les tentatives de l'Église pour rapprocher les royaumes chrétiens. Il peut également être tentant de rapprocher cette religion de l'unité de l'État que fut d'une certaine façon le confucianisme dans l'histoire impériale chinoise, de cette autre forme de religion de l'État que constitue à sa façon le communisme chinois moderne. Autrement dit, les administrateurs et les lettrés confucianistes au service des empereurs Han, Song, Ming ou Qing seraient simplement devenus les fonctionnaires et les grands prêtres du Parti communiste chinois, PCC, au service du président de la République populaire. Ce type de parallèle est parfois opéré pour insister sur l'action du régime communiste en faveur de l'unité du pays et de l'harmonie sociale, dans la droite ligne de l'histoire chinoise et du confucianisme. C'est dans cet esprit que les dirigeants du PCC ont remis Confucius à l'honneur depuis le début des années 2010. Non sans une spectaculaire volte-face, le conservatisme économique et social du confucianisme était honni sous la révolution culturelle à l'époque du combat contre les quatre vieilleries, les propriétaires fonciers et les mandarins. À l'étranger, et parfois aussi en Chine, ce même parallèle historique est à l'inverse souvent utilisé de façon négative pour décrire un pouvoir chinois réputé éternellement autoritaire, avec des masses immuablement soumises à une forme de despotisme millénaire propre à la culture et à l'âme chinoise, sous la férule des empereurs et de leurs mandarins, puis des dirigeants et apparatchiks communistes. Dans tous les cas, de tels rapprochements posent de multiples problèmes. Il suppose une continuité et un déterminisme qui ne se justifient pas et qui ne permettent pas de penser la complexité et la diversité des points de bifurcation qui caractérisent la trajectoire chinoise, comme d'ailleurs toutes les trajectoires sociopolitiques historiques. Le premier problème posé par ces comparaisons est que l'État impérial chinois n'avait aucunement les moyens d'être despotique. Il s'agissait d'un État structurellement faible, disposant de recettes fiscales extrêmement limitées, avec des capacités d'intervention économique et sociale et d'encadrement de la société absolument minuscules, voire insignifiantes, par comparaison à l'État chinois actuel. Les recherches disponibles suggèrent que sous les Ming, 1368-1644, comme sous les Qing, 1644-1911, le niveau de pression fiscale ne dépassait pas de 3% du revenu national. Si l'on exprime les recettes fiscales par habitant en termes de journée de salaire, on constate que les ressources contrôlées par l'État Qing étaient entre 3 et 4 fois plus faibles que celles des États européens à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe. Le recrutement des fonctionnaires impériaux et provinciaux, que les Européens désignèrent comme les « mandarins », suivait certes des procédures très strictes, avec les fameux examens organisés dans tout l'Empire pendant 13 siècles, de 605 à 1905, qui firent grand effet et inspirèrent par la suite les Occidentaux, notamment en France et en Prusse. Mais les effectifs totaux de fonctionnaires furent toujours extrêmement réduits. À peine 40 000 fonctionnaires impériaux et provinciaux au milieu du XIXe siècle, soit environ 0,01% de la population, autour de 400 millions d'habitants, et généralement autour de 0,01%-0,02% de la population aux différentes époques. En pratique, l'essentiel des moyens de l'État Qing était consacré à la classe guerrière et à l'armée, comme toujours pour des États disposant de ressources aussi réduites, et les moyens disponibles pour l'administration civile ou les dépenses sanitaires et éducatives étaient insignifiants. Comme nous l'avons vu plus haut, l'État Qing au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle n'avait par exemple pas les moyens d'imposer efficacement sur le territoire chinois son interdiction de la consommation d'opium. Dans les faits, l'administration de la Chine fonctionnait de façon extrêmement décentralisée, et les fonctionnaires impériaux et provinciaux n'avaient d'autre choix que de se reposer sur le pouvoir des différentes élites guerrières, lettrées et propriétaires au niveau local, qu'ils ne contrôlaient que de façon très limitée, comme d'ailleurs en Europe et dans les autres parties du monde avant la montée en puissance de l'État centralisé moderne. Il faut également insister sur le fait que le régime inégalitaire chinois, comme les autres sociétés trifonctionnelles, reposait sur des formes complexes et évolutives de compromis et de concurrence entre les élites lettrées et les élites guerrières, et non pas sur une surpuissance des premières. Ceci est particulièrement clair à l'époque de la dynastie Qing, qui était issue des guerriers mandchous qui avaient conquis la Chine et pris le contrôle de Pékin et du pays en 1644. La classe guerrière mandchoue avait été organisée depuis le début du XVIIe siècle en Mandchourie, suivant le système militaire des 8 bannières, dont les membres jouissaient de droits fonciers et de privilèges administratifs, fiscaux et légaux par comparaison au reste de la population. Les Mandchous transportèrent avec eux l'organisation de cet ordre militaire à Pékin et intégrèrent progressivement dans cette noblesse guerrière des nouveaux éléments chinois, Han, en plus des guerriers Mandchous. Des recherches récentes ont estimé que cette noblesse guerrière des bannières regroupait au total près de 5 millions de personnes autour de 1720, à un moment où la population chinoise avoisinait les 130 millions d'habitants, soit près de 4% de la population. Il est possible que les effectifs des bannières aient progressé entre le moment de la conquête mandchoue au milieu du XVIIe siècle, environ 1-2% de la population, et le XVIIIe siècle, 3-4% de la population, lors de la consolidation du nouveau pouvoir, avant de décliner au cours du XIXe siècle. La fragilité des sources et les multiples difficultés liées à de telles estimations qui sont de même nature que celles que nous avons rencontrées pour estimer les effectifs de la noblesse en France et en Europe au XVIIe et XVIIIe siècle, implique toutefois qu'il est impossible d'être parfaitement précis en l'absence de recensement systématique avant le XXe siècle en Chine, ce qui montre d'ailleurs au passage le caractère faiblement centralisé de l'État impérial. Ces effectifs, environ 3-4% de la population pour la noblesse guerrière des bannières au XVIIIe siècle, sont relativement élevés par comparaison aux noblesses françaises et britanniques de la même époque, mais sont du même ordre que ceux rencontrés au Japon ou en Inde, et plus faibles que ceux rencontrés dans des pays européens marqués par le poids des ordres militaires et de l'expansion territoriale, comme l'Espagne, la Hongrie ou la Pologne. Au début de l'époque Qing, les guerriers des bannières étaient principalement stationnés dans des garnisons à proximité des grandes villes. Ils vivaient de droits fonciers et de revenus financés sur les productions locales et par l'État impérial. À partir du milieu du XVIIIe siècle, l'État Qing commença cependant à considérer que cette noblesse guerrière était trop nombreuse et lui coûtait des ressources trop importantes. L'affaire était délicate, comme dans toutes les sociétés trifonctionnelles, car des mesures trop radicales à l'encontre de la noblesse guerrière risquaient de mettre le régime en péril. Dès 1742, l'empereur Qing avait entrepris de relocaliser une partie des bannières en Mandchourie. À partir de 1824, cette politique prit une ampleur nouvelle, à la fois dans un objectif d'économie budgétaire et dans un souci de mise en exploitation et de colonisation du nord du territoire chinois, l'État impérial entreprit de distribuer des terres en Mandchourie septentrionale à une partie de sa noblesse guerrière, tout en favorisant l'immigration de populations non nobles pour travailler pour le compte de ses nouveaux propriétaires terriens. L'affaire ne fut pas simple et conserva une ampleur limitée, d'une part parce que la plupart des membres des bannières et de leurs familles n'avaient pas l'intention de se laisser transporter aussi loin si facilement, et d'autre part parce que les immigrants roturiers étaient souvent plus à même d'organiser la mise en exploitation des terres que ceux issus de la classe guerrière, ce qui provoqua de multiples tensions. Au début du XXe siècle, on observe toutefois dans le nord de la Mandchourie d'étonnantes micro-sociétés propriétaristes caractérisées par une forte concentration des terres aux mains de l'ancienne noblesse guerrière.